Alors, cette méditation s'appelle en tibétain chiné, hein, les anciens, je n'apprends rien. En sanskrit, samatha. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette méditation, on l'a traduit en français par calme mental. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le calme mental n'est pas quelque chose que l'on doit fabriquer dans notre esprit. Il n'y a pas à installer quelque chose dans l'esprit quand on médite. Et surtout pas à essayer de reproduire ce que l'on a lu ou entendu par rapport à ce que doit être une méditation du calme mental. Le calme mental, c'est va s'installer dans l'esprit même s'il y a du mouvement dans l'esprit. La méditation du calme mental n'est pas synonyme d'un esprit dans lequel il ne se passe plus rien. Chez un pratiquant, prenons Rinpoche ou le Dalai Lama, dans leur esprit, ils continuent d'avoir des pensées. Ils continuent d'avoir des sensations. Si le Dalai Lama s'est blessé à un doigt, il continuera de sentir sa blessure, même tout en méditant, quoi. Ils continueront d'avoir des perceptions. S'il y a une voiture qui passe et ils entendent la voiture, ils continueront d'entendre la voiture. Et ils continueront d'avoir des facteurs mentaux. Tous ces éléments, toute cette activité, c'est ce qu'on appelle la dynamique de l'esprit. Et donc, il faut bien se rappeler dès le départ que avoir l'esprit calme ne veut pas dire avoir un esprit dans lequel, eh bien, on ne pense plus, on n'a plus de sensations, on n'a plus de perceptions, on n'a plus de facteurs mentaux. Le calme mental, c'est un esprit qui n'est plus perturbé par l'apparition de chacun de ces éléments. Il n'est plus perturbé lorsqu'une pensée s'élève. Aujourd'hui, si l'on ne médite pas, ce qu'on appelle un esprit ordinaire, eh bien, beaucoup de nos souffrances viennent du fait qu'il y a une pensée qui s'élève à partir de ce que nous avons pu vivre dans le passé, ou par rapport à une pensée relative au futur. Mais si on analyse bien, est-ce que c'est cette pensée relative au passé ou relative au futur qui est cause de souffrance dans notre esprit, de perturbation dans l'esprit? Non. Parce que c'est autre chose qui fait naître dukkha, qui fait naître la perturbation, qui fait naître la souffrance dans l'esprit. C'est comment notre esprit réagit par rapport à la présence de cette pensée. Et ça, souvent, Rinpoche Rinpoche le rappelle dans ses enseignements, il dit « Méditer, c'est être conscient de comment nous réagissons par rapport à, par exemple, la présence des pensées et comment nous pouvons modifier cette façon de réagir. » Donc, méditer veut dire transformer notre esprit, transformer le fonctionnement ordinaire de notre esprit. Et nous cherchons à le transformer parce que dans son fonctionnement ordinaire, eh bien, dukkha apparaît. Et j'utilise ce mot dukkha plutôt que souffrance parce que quand on décrit la souffrance du monde humain, par exemple, on nous parle des quatre grandes souffrances, la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Et alors on pourrait se dire, ce soir je ne suis pas trop vieux, je ne suis pas malade, donc tout va bien, je ne rencontre pas dukkha. Dukkha, ça englobe ces quatre formes de souffrance, la souffrance physique, la souffrance mentale, morale, mais ça englobe aussi la notion d'imperfection, d'insatisfaction, de frustration. Et bien depuis ce matin qu'on s'est réveillé, est-ce que notre esprit n'a pas été en contact avec dukkha, avec cette expérience de dukkha? Le mec qui pinaille en voiture devant nous alors qu'on est pressé, qu'est-ce que ça fait naître dans notre esprit? La paix, la tranquillité, ou pas une certaine irritation? Eh bien, cette irritation, c'est dukkha. Vous faites la queue dans un supermarché, vous passez à la caisse, c'est juste là où il n'y a pas de débit, quoi. Ça n'avance pas. Dukkha. Et alors, si vous analysez cela, ben, vous voyez que depuis ce matin, on a rencontré peut-être 500 fois Dukkha déjà. La moindre impatience, la moindre frustration, la moindre nouvelle que l'on reçoit, qu'il ne nous plaît pas, Dukkha apparaît. Bon, quel est le but de la pratique du bouddhisme? Quel est le but de la pratique du dharma? Se libérer de Dukkha. Il n'y a pas d'autre but. Alors ça, pour les personnes qui viennent pour la première fois, si vous cherchez dans votre recherche spirituelle, si vous cherchez qui a créé le monde, est-ce qu'il y a un créateur, est-ce qu'il y a un dieu, pas de dieu, est-ce qu'il y en a plusieurs, pas plusieurs, etc., tout de suite, allez chercher une autre voie. Vous ne trouverez pas dans le bouddhisme une réponse à ce genre de questions. Le bouddhisme ne répond pas à ce genre de questions. Mais par contre, le but du bouddhisme, c'est tout le monde, tous les êtres, et pas seulement les êtres vivants, même les animaux, tous les êtres font l'expérience de Dukkha à longueur de journée. On pourrait dire à longueur de vie, parce que même un cauchemar, c'est Dukkha. Hein. Donc tous les êtres font l'expérience de Dukkha. Quelle est la cause de cette apparition de Dukkha? Est-ce qu'il y a un moyen d'y mettre un terme? Et comment mettre un terme à cette apparition de Dukkha? Voilà toute la doctrine sur laquelle repose la pratique du Dharma. Cette doctrine, c'est ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Dukkha, cause de Dukkha, cessation de Dukkha, comment faire pour que Dukkha disparaisse. Ces quatre points, c'est les quatre nobles vérités. C'est tout le corpus doctrinal du Dharma. Et le Dharma ne répondra pas à d'autres questions existentielles que d'autres voies spirituelles répondent ou tentent de répondre. Voilà. Alors cela suppose qu'un pratiquant bouddhiste, quelqu'un qui s'intéresse au Dharma, c'est quelqu'un qui doit se positionner par rapport à Dukkha. Est-ce qu'on en a marre de Dukkha? Ou est-ce qu'on a tellement négocié, comme disent les textes, depuis des temps sans commencement avec Dukkha, qu'aujourd'hui, ma foi, on fait avec? Alors bien sûr que quand Dukkha a des manifestations telles que la maladie, la souffrance de la mort, etc., oui, là, on sait ce que c'est que Dukkha. Mais est-ce qu'on voit vraiment Dukkha dans l'insatisfaction, dans la frustration, dans l'autre qui m'a regardé de travers? Qu'est-ce que ça a fait naître dans mon esprit? L'autre qui m'a adressé une parole pas très sympa, qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit? Le collègue de travail qui ne peut pas m'encaisser depuis 10 ans, qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit? Et le caractère de mon conjoint que je ne peux plus supporter, qu'est-ce que ça fait naître dans mon esprit? Dukkha, 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 Dukkha. Et on ne peut pas dire que seulement certaines personnes rencontrent Dukkha. Mais tous les êtres rencontrent Dukkha. Et tous les êtres ont envie de se protéger de Dukkha. Ont envie d'éviter Dukkha. Et pas seulement les êtres humains. Les animaux aussi ont envie d'éviter de rencontrer des situations pénibles, désagréables, etc. Mais que faisons-nous depuis ce matin, si ce n'est de nous protéger de Dukkha et d'aspirer à une paix, d'aspirer au bonheur, d'aspirer à une tranquillité, à un bien-être, etc. Nous vivons tous pour ça. Sous forme sous forme de boutade, on pourrait dire, mais c'est, étant donné que c'est l'aspiration de tous les êtres, enfin tout le monde devrait être bouddhiste, quoi. Puisque c'est l'objectif du dharma. Voilà, mais est-ce qu'on considère bien tout ce que l'on vit comme contenant cette expérience de Dukkha? Et ça, on doit observer, on doit voir comment notre esprit réagit par rapport aux circonstances que l'on rencontre, par rapport aux situations que l'on rencontre. Et dans notre vie quotidienne, n'attendez pas de recevoir une nouvelle catastrophique pour vous dire « Ouh, ça c'est vraiment Dukkha ». Mais dans la relation avec autrui, dans les situations de notre vie de tous les jours, est-ce qu'on ne rencontre pas Dukkha? les travaux qui n'avancent pas, mais c'est dukkha, qu'est-ce que ça fait d'être dans notre esprit? Et puis vous prenez tous les exemples que vous pouvez vivre dans votre journée, que vous avez vécu depuis ce matin, essayez de voir si dukkha n'était pas présent. Ben vous verrez que dans tout ce que l'on vit, dukkha est là. Alors après, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à dukkha? Est-ce qu'on fait avec? Et on se dit, ma foi, c'est ça la vie. Ou est-ce qu'il y a la possibilité de s'en libérer? Et avant de voir la possibilité de s'en libérer, est-ce que nous avons la motivation de nous en libérer? Et ça, c'est une question qu'on doit vraiment se poser. Parce qu'on aborde là ce qu'on appelle le renoncement dans le bouddhisme. Mais à quoi renonce-t-on? On renonce à dukkha, on renonce au samsara. Renoncer au samsara, ça ne veut pas dire renoncer à notre monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ça veut dire renoncer à dukkha, renoncer à la souffrance. Mais pour pouvoir renoncer à la souffrance, il faut renoncer aux causes de la souffrance. Si l'on ne connaît pas les causes de la souffrance, mais comment faire? Il faut aller à la racine. Et là, c'est une autre introspection que nous devons avoir. C'est comment on est dukkha dans notre esprit? Pourquoi est-ce que je souffre si l'autre me regarde de travers? Si l'autre m'insulte, pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui fait naître cette souffrance dans mon esprit? Est-ce que c'est vraiment le phénomène en lui-même, la situation en elle-même, qui provoque dukkha dans mon esprit? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt ma façon de réagir par rapport à cette situation, par rapport à ce phénomène? Et on va voir, si on analyse bien, eh bien on va voir que c'est ma façon de réagir lorsque, par une conscience, je suis en contact avec tel objet, avec tel phénomène, avec telle situation, que dukkha apparaît. C'est-à-dire que la racine de dukkha n'est pas liée au phénomène eux-mêmes, n'est pas liée fondamentalement aux situations, mais elle est bel et bien liée au fonctionnement de mon esprit. Donc, elle est dans mon esprit. La racine de dukkha est mon esprit, tel qu'il réagit. Et c'est pourquoi les Tibétains, en langue tibétaine, être bouddhiste dit Nangpa. Nang veut dire intérieur. Un bouddhiste, c'est quelqu'un qui voit que la cause de sa souffrance n'est pas fondamentalement liée aux situations qu'il rencontre, mais que la cause de sa souffrance est en lui-même, dans sa façon de réagir par rapport aux situations qu'il rencontre. Et tant que nous attribuons la cause de notre souffrance aux situations adverses, nous allons passer notre temps à vouloir transformer les situations adverses. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas quelque chose de bon là-dedans. Si l'on peut améliorer une situation, oui, nous devons le faire par compassion, pour nous-mêmes et pour les autres. Mais est-ce que nous pouvons modifier toutes les situations? Et fondamentalement, si la maladie est là, vous pouvez vous soigner. Et quand le médicament ne fait plus effet, la maladie est là. Il va bien falloir faire face à la maladie. Et vous prenez comme ça de multiples situations dont on ne peut pas modifier les racines de façon profonde, de façon ultime, totale. Alors, la libération, elle ne vient pas de là. Elle est possible si je transforme ma façon de réagir par rapport à ces situations. Et c'est pourquoi on appelle le bouddhisme la voie de l'intériorité, parce qu'on voit, on comprend, on admet, mais on n'admet pas parce que parfois, on n'admet pas parce que c'est dit, on admet par observation, par compréhension. Et le Dalai Lama utilise souvent ce terme de compréhension. Nous devons comprendre ce qui se passe. Et on admet que, par cette compréhension, eh bien la racine de notre souffrance, elle est dans notre esprit. Et c'est plutôt rassurant de voir cela. Parce que si la racine de la souffrance est dans notre esprit, bien on peut se dire que si je me transforme, si je transforme ce mode de fonctionnement, mais la racine de la paix, c'est-à-dire la racine de l'éveil, est dans mon esprit aussi. Elle m'appartient. Et c'est pourquoi personne ne peut faire le chemin à notre place. Et ça, c'est tout le sens de la pratique méditative. Méditer, ça ne consiste pas à avoir des expériences, des petites lumières qui clignotent, entendre des sons divins ou je ne sais quoi. Méditer veut dire transformer mon esprit. Et ça va prendre du temps parce que, eh bien, il y a les tendances qui font que eh bien, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt négocié, voire accepté la présence de dukkha. Et aujourd'hui, eh bien, on a tendance à faire avec. Mais je dis souvent sous forme de plaisanterie qu'un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre. Il faut franchement en avoir marre un jour, quoi. Et se dire, j'en ai marre de souffrir. Et j'en ai marre de faire souffrir les autres. Parce que si moi je n'ai pas envie de souffrir, personne n'a envie de souffrir. Personne n'a envie d'être insulté, personne n'a envie d'être tué, personne n'a envie d'être volé, etc. Personne. Pas même un animal. Observez le comportement des animaux. Dès qu'il y a un prédateur, dès qu'il y a une source de souffrance, hein, qui s'approche de l'animal, que fait l'animal? Il cherche par tous ses moyens à lui, eh bien, de se protéger. Donc c'est commun à tous les êtres. Cette quête du bonheur, cette quête de protection de dukkha, de la souffrance, elle n'est pas un mode de vie d'une certaine catégorie d'êtres, d'une certaine élite, c'est un mode de vie absolument commun à tous les êtres. Donc, ma façon de fonctionner, tous les êtres ont cette façon de fonctionner. Le renoncement au samsara, ça commence par cela. C'est renoncer à cette irritation, à cette impatience, à tout ce qui fait que quelquefois je me lève le matin, je ne sais même pas pourquoi je suis déprimé, quoi. Il n'y a pas de raison évidente, mais il y a une espèce de mal-être qui s'installe. Alors, observez autour de vous, et c'était très intéressant, Rajesh, quand il était en France, hein, en juin et juillet, il m'a dit et redit, mais combien vous faites des histoires avec pas grand-chose en Occident, et surtout avec tout le confort, tout le matériel, toutes les situations, par exemple au niveau de la santé. Ce n'est peut-être pas idéal la façon de vivre ici, mais franchement, c'est quand même plus agréable de vivre ici qu'en Inde, quoi. Et vous avez tous des têtes. Il a pris le métro un soir, il m'a dit, mon Dieu, mais ils ont tous des têtes. Mais vraiment, quoi. Mais on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend plus compte. Enfin, il faut quand même se poser des questions, à savoir pourquoi la France est le premier pays au monde à bouffer des tranquillisants, des médicaments pour mieux dormir, pour évacuer le stress, etc. Il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre façon de fonctionner, quoi. Et des fois, c'est intéressant d'avoir un avis ou une analyse de quelqu'un de totalement extérieur, parce qu'il me disait, mais nous, en Inde, quand vraiment on a un problème, ça veut dire qu'on a un enfant qui est malade et on n'a pas les moyens de le soigner. Alors là, oui, ça nous empêche de dormir. C'est pas la querelle qu'il peut y avoir entre deux individus. Hein. Alors, comme il m'a dit, mais qu'est-ce que vous entretenez les problèmes? Vous n'arrêtez pas d'en parler des uns aux autres, et on retourne en discuter, et on coupe les cheveux en quatre, etc. Il dit, mais ça fait une espèce de mayonnaise. Et alors, tout le monde baigne dans cette espèce de mal-être ambiant, etc. Enfin bon, voilà, ça c'était son analyse. Il n'a pas tort à 100%, hein. Alors bien sûr que quand on est dans ce système-là, dans ce mode de fonctionnement, la souffrance est réelle. On souffre. Mais ça veut bien dire que cette souffrance, elle n'est pas due à 100% aux circonstances. Elle est due au fonctionnement de notre esprit. Et ça, il faut vraiment en être convaincu. Le jour où nous sommes convaincus de cela, où nous voyons que la racine de dukkha, bien c'est le fonctionnement de notre esprit, on n'a qu'une envie, c'est de transformer ce fonctionnement-là. Et là, on commence vraiment à méditer. Parce qu'on voit l'utilité de la méditation. Et de façon plus grossière, d'une certaine façon, le renoncement au samsara, mais c'est le renoncement à ce que produit ce mode de fonctionnement. À savoir les facteurs perturbateurs. Parce que les facteurs perturbateurs sont dukkha pour nous-mêmes et pour autrui par les actes que l'on accomplit sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs. Vous prenez la colère, la haine, etc. Est-ce que ce n'est pas une cause de souffrance pour soi-même, quand notre esprit est sous l'emprise de la colère ou de la haine? Mais combien on fait souffrir aussi les autres sous l'emprise de ce facteur perturbateur? Idem pour la jalousie, idem pour l'avidité, idem pour l'indifférence. Idem pour l'orgueil. Alors renoncer au samsara, c'est renoncer à cela. Il ne s'agit pas de renoncer à sa voiture, à sa situation professionnelle, à sa famille, à sa réussite sociale, etc. Personne ne nous demande de renoncer à ça. Le bouddhisme ne demande pas de renoncer à cela. Vous avez des soi-disant renonçants qui sont partis dans l'Himalaya ou dans je ne sais quelle forme de soi-disant de renoncement. Ils n'ont pas plus de renoncement que quelqu'un qui ne travaille pas sur son esprit. Et vous avez des personnes qui vivent totalement dans le monde et qui ont davantage de renoncement eh bien, qu'un soi-disant ermite. C'est comment vit notre esprit. Renoncer, c'est renoncer à l'attachement, par exemple, que l'on a vers sa voiture, sa position sociale, son besoin de reconnaissance ou je ne sais quoi. Il y a des personnes, des fois, qui me disent « Oh, moi, je n'ai pas d'attachement. » Non, non, je n'ai pas d'attachement. La meilleure chose à faire quand une personne vous dit ça, vous savez ce que c'est ? Prenez votre clé, puis vous allez vers sa voiture, puis vous faites semblant de rayer sa voiture. Vous allez voir s'il n'y a pas d'attachement. C'est immédiat. Le renoncement, c'est pas quelque chose de c'est pas une contrainte, c'est pas une corvée, c'est pas quelque chose de négatif, de pénible. Si on renonce à la souffrance, qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a la non-souffrance. Il y a la paix intérieure. S'il y a la paix intérieure, toutes les qualités inhérentes à notre esprit mais peuvent se développer. Il y a davantage d'amour, davantage de compassion, de joie aussi. Comment est notre esprit lorsque on témoigne de l'amour envers quelqu'un? Il est plutôt heureux, plutôt joyeux, plutôt en paix. Simplement le fait de faire un cadeau à quelqu'un. Mais comment est votre esprit lorsque vous faites un cadeau à quelqu'un? Comment est notre esprit lorsque il est constamment sous l'emprise de la colère, de la jalousie, de l'orgueil? Mon esprit est complètement sous l'emprise de la jalousie. Est-ce que je peux me dire à ce moment-là, « Oh, qu'est-ce que je suis heureux !»« Mais qu'est-ce que c'est bon !»« Oh, c'est le bonheur total, quoi !»« C'est la paix totale, quoi !» Est-ce qu'on peut vraiment se dire ça lorsqu'on est sous l'emprise de la colère, de la jalousie, de l'indifférence, de l'orgueil, etc. Et ça devrait être clair, ça devrait être facile de renoncer à ça. Au moins dans l'aspiration, en tout cas. Mais ça, c'est le but du dharma. C'est le renoncement au samsara, pour soi et pour les autres. Et en plus de ça, on va voir que sous l'emprise de ce fonctionnement de l'esprit, sous l'emprise des facteurs perturbateurs, nous accomplissons des actes. Donc là, on peut réfléchir sur la loi de causalité. Parce qu'on parle toujours de la loi du karma ou la loi de causalité en termes d'actes et de fruits de l'acte, de la conséquence. Mais on oublie un aspect du karma. Il y a la volition, ce qui nous motive, ce qui s'élève dans l'esprit et qui nous pousse à agir de telle ou telle façon. Et ça, ça fait partie du karma. Ça fait partie de la loi de causalité. C'est le moteur. La volition, c'est le moteur. Pourquoi est-ce que j'agis? Dans quel but, avec quelle motivation j'agis de telle façon? Et ça, ça se passe où? Ça s'élève où, cette motivation? Mais dans notre esprit. Là encore, c'est notre esprit qui est le moteur de l'acte. Et si vous voyez, si vous observez très bien, avec acuité, tout ce qui se passe dans le monde en termes de souffrance que des êtres occasionnent à d'autres êtres, vous trouvez toujours des facteurs perturbateurs. Il n'y a pas d'autre fonctionnement de l'esprit. Un mec à Marseille tire deux balles dans la tête d'un bonhomme. Qu'est-ce qui a motivé cette personne à tirer deux balles? C'est dans son esprit que ça s'est élevé. Peut-être la haine, peut-être l'avidité, peut-être j'en sais rien, la jalousie, je ne sais pas. Voilà. Mais il y avait une volition, il y avait une volonté d'agir. Cette volonté, elle était sous l'emprise d'un fonctionnement de l'esprit. Je vous ai déjà raconté, les anciens, ce que disait l'ancien Kalo Rinpoche, le précédent Kalo Rinpoche. Il disait, il n'y a pas de différence fondamentale dans le fonctionnement de l'esprit entre un chef d'État qui déclare la guerre à un peuple et entre une personne, un couple par exemple, qui sont en discorde. Il n'y a pas de différence fondamentale. La différence, elle se situe dans l'ampleur de l'acte et dans l'ampleur de l'effet de cet acte. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau du fonctionnement de l'esprit, c'est la même chose. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'avidité, etc. C'est toujours un facteur perturbateur. Il rajoutait avec un peu d'humour, le problème c'est que souvent dans un couple, ça dure plus longtemps qu'une guerre. Bon, et évidemment que l'effet n'est pas le même. Hein? Mais quand on analyse la cause de cet acte-là, eh bien c'est la même chose que le fonctionnement ordinaire dans notre esprit. À chaque fois que je m'irrite contre quelqu'un, à chaque fois que je perds patience, à chaque fois que je fonctionne sous l'emprise d'un facteur perturbateur, je suis à l'origine d'une guerre, on pourrait dire. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. Il ne faut pas se dire que ce sont des monstres qui agissent de cette façon-là. Ils sont simplement plus sous l'emprise de leur facteur perturbateur que nous ne le sommes. C'est tout. Au départ, le fonctionnement est identique. Donc il faut bien associer, quand on réfléchit sur la loi du karma, il faut bien associer que les actes que nous produisons et qui sont cause de souffrance pour soi et pour autrui, c'est ce qu'on appelle des actes négatifs, eh bien, ont ce fonctionnement au départ dans notre esprit. C'est notre esprit qui est le moteur de notre façon d'agir. Et là encore, si nous voyons bien ce lien entre les deux, entre le moteur et l'acte lui-même, nous ne pouvons que méditer, nous ne pouvons que transformer notre esprit. Et cet été, lors du séminaire au Portugal avec Ringo Rinpoche, depuis 2 ans, on est sur le même texte, les rayons de lune, un texte du Mahamudra, un gros pavé sur le texte du Mahamudra, la nature de l'esprit. Et Rinpoche, cet été, il a fini toute la partie de Shiné, du calme mental. Donc, il a abordé la vision supérieure, c'est-à-dire la méditation qui suit quand on a une certaine expérience du calme mental. Et au bout de 3 jours, lors d'un enseignement, il a fermé son livre. Il a fermé son livre en disant, avec le sourire, en plaisantant, mais il a dit, maintenant vous me posez des questions sur tout ce que vous voulez, sauf sur la nature de l'esprit. Et alors, comme il disait ça en plaisantant, tout le monde a rigolé et tout le monde y est allé de sa petite question. Le problème n'a pas été plus creusé que ça. Mais quand j'ai accompagné Rinpoche à sa chambre, j'ai reposé un peu des questions sur pourquoi il ne continuait pas que l'on pose des questions sur le sujet. Il m'a dit, mais personne n'a d'expérience du calme mental. Et comment il l'a su ? Par les questions qui étaient posées sur l'actong, sur la vision supérieure, c'est-à-dire sur la nature de l'esprit. Ce n'étaient que des questions intelléo. Ce n'étaient que des questions avec lesquelles les gens coupaient les cheveux en quatre. Alors oui, dans le texte, il dit la vacuité c'est comme si, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, est-ce qu'on ne peut pas comprendre de cette façon la vacuité comme si, comme ça, etc. Et il y avait même pire que ça, il y avait des personnes qui avaient une certaine idée de ce qu'était la vacuité. Pour eux, ils étaient mordicus sur cette conception de ce qu'était la vacuité. Et en fait, leur question ne cherchait qu'une chose, c'était que leur conception de la vacuité devait être validée par le dharma. Donc en fait, il n'y avait aucune ouverture dans ces questions-là. Et Rinpoche a dit, mais ça ne fait rien avancer si les personnes n'ont pas un minimum d'intégration du calme mental dans leur pratique. Et après, j'ai discuté avec lui sur le contenu des enseignements. Alors, je sais bien qu'on était dans les souhaits du Mahamudra en mai dernier. Et on y reviendra. Mais avant, il faut absolument que le calme mental ne soit pas réalisé, parce que ça, il va falloir méditer et ne jamais cesser de méditer le calme mental, mais il va falloir quand même qu'il soit un minimum intégré, quoi. avant de passer à la vision supérieure. Et c'est à la suite de cette discussion avec lui que je vous ai envoyé le courrier au cours de l'été. Parce qu'il ne sert à rien d'étudier ce qu'on appelle la nature de l'esprit, la vision supérieure, si on est toujours aussi prompt à notre impatience, à notre irritabilité, à notre jalousie, à notre orgueil, au ressentiment, à la critique, au jugement, à notre désir de vengeance parce que l'autre, il y a 10 ans, m'a causé du tort, etc. Si ça ne bouge pas depuis que l'on médite, on n'a pas avancé d'un iota dans la pratique de Shiné. Shiné, c'est l'antidote au voile des facteurs perturbateurs. C'est l'antidote aux facteurs perturbateurs. Donc, le premier critère qui nous montre que Shiné commence à être intégré, c'est lorsqu'on on constate une modification dans l'apparition et surtout dans la puissance des facteurs perturbateurs dans notre esprit. Si l'on constate depuis 10 ans qu'on médite, que nous sommes moins prompts à la colère, au jugement, à la critique, etc. Là, on peut se dire, ça va, je médite. Il y a un changement, il y a une transformation que je peux sentir dans l'esprit. Et il ne faut pas sentir cette transformation quand tout va bien. Ça, c'est une couche de vernis. Mais on doit la sentir lorsqu'on est confronté à une situation violente qui fait naître vraiment des facteurs perturbateurs. Comment est-ce que je réagis alors dans cette situation? Et deuxièmement, si mes facteurs perturbateurs sont moins puissants, il y a davantage de paix dans l'esprit, même si je suis confronté à telle ou telle situation. Et non seulement il y a davantage de paix, de tranquillité, d'espace, mais dans cet espace, je peux continuer d'éprouver de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, même pour l'autre qui me regarde de travers. Ça, c'est vraiment les deux critères, diminution des facteurs perturbateurs et développement des qualités. Si je sens ça dans mon esprit, je peux me dire que là, ok, je médite et ça va, quoi. Mais alors, il ne faut jamais s'arrêter de méditer Shiné. Même si on passe dans la vision supérieure, il ne faut jamais s'arrêter de méditer Shiné. Parce qu'on a besoin de cette stabilité, d'intégrer cette stabilité. Et je parle de stabilité plutôt que de calme. Parce que calme, on voit souvent quelque chose de calme, c'est-à-dire il n'y a plus de mouvement. La mer est calme, ça veut dire qu'il n'y a pas de vagues. Stabilité, ça a le sens de, malgré le mouvement, l'esprit n'est pas perturbé par ce mouvement. Donc, l'esprit peut être calme alors qu'il y a plein de mouvements, plein de pensées, plein de sensations, etc. C'est vraiment ce que veut dire le terme tibétain samten, esprit calme, esprit stable. Hein? Et oui, je disais qu'il ne faut jamais s'arrêter de méditer Shiné, parce que lorsque on cesse de méditer Shiné, cette stabilité, si elle n'est pas vraiment intégrée, si elle n'est pas devenue naturelle dans notre esprit, eh bien, elle perd, je dirais, de sa puissance. Et là, les facteurs perturbateurs redémarrent et avec toute la force. Et on a tous fait l'expérience de méditer un certain temps, puis ensuite on s'arrête de méditer. Comment est-ce qu'on réagit aux situations? Est-ce qu'on ne constate pas que notre esprit retrouve sa façon ordinaire d'affronter les situations et de répondre aux situations? Et je me souviens, quand on était sorti de retraite, vous savez, en retraite, on prend une pratique de retraite que l'on continue toute sa vie. Et donc, on arrive à Sonada, en Inde, dans l'Himalaya, le monastère de Kalu Rinpoche, et comme il était mort pendant qu'on était en retraite, quand on a pu, on est tous allés à Sonada. Et à Sonada, il y avait notre maître de retraite. Alors je lui dis, voilà, j'ai pris telle pratique comme pratique pour après la retraite, etc. Il me dit, oui, c'est bien, mais médite bien Shiné. On m'était dit, attends, on a fait ça pendant 3 ans et demi, Mais non, ça veut dire qu'il faut continuellement méditer le chiné, observer son esprit. Comment est-ce qu'il réagit quand je rencontre telle ou telle situation? Et seulement nous-mêmes, nous pouvons savoir comment réagit vraiment notre esprit. Parce que même la personne qui paraît totalement impassible, ça peut être une totale indifférence, ça peut être un contrôle au niveau du corps, mais alors ce qui se passe à l'intérieur, ça bouillonne. Hein. Au niveau de la parole, il peut y avoir un certain contrôle. Souvent dans l'écriture, 3 jours après, il y a nettement moins de contrôle. Vous ramassez une lettre, là, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin de ce travail-là. Et plus ce travail de chiné va devenir naturel, va s'installer dans notre esprit, plus la nature de l'esprit va se révéler par elle-même. Il n'y aura pas tellement besoin d'analyser ce qu'on appelle sur la nature de l'esprit. Les facteurs perturbateurs diminuant, c'est le voile qui diminue. Et ce voile diminuant, les 3 autres voiles vont diminuer aussi, parce que les facteurs perturbateurs s'élèvent dans l'esprit à partir du voile de la dualité. Ce fonctionnement en termes de dualité, sujet-objet, c'est dans cet espace que les facteurs perturbateurs peuvent s'élever. Ils vont, cela va permettre aussi au voile des tendances à diminuer. Ces tendances, ces empreintes, ces habitudes de l'esprit qui font qu'on réagit toujours de la même façon quand on rencontre telle ou telle situation. Et puis, il y a le voile du karma qui va diminuer. Parce que si nous sommes plus libres des facteurs perturbateurs, nous accomplissons moins d'actes négatifs. Donc, en fait, les 4 voiles vont diminuer en même temps. Si les voiles diminuent, les qualités vont se développer. Mais pas seulement les qualités de la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, mais les qualités aussi de la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la non-saisie, c'est-à-dire la nature de l'esprit. Et c'est pourquoi dans tous les textes, on voit que la bodhicitta ultime, la nature de l'esprit, pour se développer, eh bien, doit s'appuyer sur la pratique de la bodhicitta relative. Et en Asie, c'est une évidence pour les Tibétains. Ils sont toujours en train de circumambuler autour d'un stupa, de faire des offrandes et de bougies, d'encens, d'argent, je ne sais pas quoi. Et les Occidentaux, non. Nous, on médite tout de suite vacuité. Et on est là comme ça. Il faut absolument que la vacuité naisse. Mais si cette vacuité ne s'appuie pas sur la bodhicitta relative, elle ne peut pas s'élever. On en aura une compréhension intellectuelle, mais elle ne peut pas s'élever en termes d'expérience. Et c'est logique. À chaque fois que l'on va pratiquer un bienfait pour autrui, qu'est-ce que ça élimine? La saisie égotique. La bodhicitta ultime, c'est lorsque la saisie égotique a totalement disparu. Il faut bien trouver des moyens pour que cette saisie égotique, elle diminue. Alors la méditation de chiné, ça va lui permettre de diminuer, mais toutes nos actions tournées vers autrui, c'est-à-dire toute cette bodhicitta, ce qu'on appelle l'esprit d'éveil, l'attention à autrui, la bienveillance, tout ce que l'on peut mettre en place, et pas seulement en aspiration, mais aussi en mise en œuvre, en application dans notre vie quotidienne tous les jours, c'est non seulement accomplir le bienfait d'autrui, mais ça accomplit également notre bienfait, parce que ça permet à notre saisie égotique, à chaque fois, d'en prendre un coup, quoi. Quand on a compris tout ça, quand on a analysé tout cela, ce fonctionnement de l'esprit, et qu'on comprend bien que c'est dans notre esprit que se trouve cette racine du samsara, on passe peut-être au besoin de trouver une méthode qui va nous permettre de transformer ce mode de fonctionnement. Et cette méthode, on a besoin de multiples conditions pour pouvoir la mettre en pratique. Je sais qu'aujourd'hui en Occident, le dharma est quelque chose qui nous paraît naturel, ordinaire. On fait 100 km, on tombe sur un centre du dharma en France. Je me souviens qu'en 86, j'étais à une initiation de Kalua Rinpoche à Vancouver au Canada. Les Canadiens m'avaient dit, quelle chance vous avez en France, vous faites 200 km, vous tombez sur un centre du dharma. Nous, il nous faut 3 heures d'avion. déjà en 86. Mais aujourd'hui, regardez, vous avez un centre du Dharma ici, vous en avez un autre où ? À Mulhouse, un peu plus au sud, un peu plus au nord, vous avez Luz, vous en avez à Strasbourg, etc. Vous traversez le Rhin, il y en a à Fribourg, etc. C'est facile aujourd'hui de pratiquer le Dharma. Et ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été évident. Il faut réfléchir à l'interdépendance de toute chose. Parce que moi j'ai connu quelqu'un, le médecin Stetzler, qui maintenant est décédé, qui aurait peut-être 90 ans aujourd'hui, quand il a eu 17 ans et qu'il a cherché des instructions en France pour la pratique du Dharma, impossible à trouver. Il a dû aller au Sri Lanka. Alors d'accord, il avait les moyens pour y aller. Mais je veux dire, ce n'était pas évident. Quelqu'un qui s'intéressait au Dharma, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel, mais il y a des tas de conditions qui ont permis l'implantation du Dharma. C'est quelque chose qu'il faut apprécier et qu'il faut en tout cas reconnaître. Il y a des pionniers. L'autre jour, j'étais à Montbéliard, je me suis arrêté à Belfort, chez une des personnes qui a été à l'initiative du centre de Kagyu-Zong à Paris et de Vajradharaling en Normandie. Bon, elle a 81 ans, 82 ans aujourd'hui, mais si elle n'avait pas été là, alors qu'elle était seule avec trois filles et qu'elle travaillait, etc., elle a mis une énergie pour la création de ces centres. Ça, c'était des pionniers, hein. Mais on dépend de ces gens-là. Il faut vraiment réfléchir sur l'interdépendance. Ça nous paraît tellement évident aujourd'hui. Mais non. Et puis ça, ce sont des conditions environnementales, on va dire. Et en plus, il faut que des Rinpoche viennent nous donner des instructions. On n'est pas obligé d'aller au fin fond de l'Inde pour aller chercher des instructions, ils viennent jusque dans cette salle. Et quelquefois, on fait presque la gueule. En se disant, oh, il y a 25 km, il neige aujourd'hui, je n'y vais pas. Et tout ça, on réagit comme ça, mais pourquoi ? Mais parce qu'on ne prend pas la mesure du caractère précieux de ces enseignements. Et puis, on a des conditions, mais qui nous appartiennent, qui nous sont propres. Nous ne sommes pas trop vieux, nous ne sommes plus très jeunes, nous ne sommes pas malades, nous avons toutes nos capacités physiques, mentales, pour être en contact, pour étudier, pour approfondir, mettre en pratique le Dharma. Regardez, il y a des tas de personnes qui ne sont pas là ce soir. Depuis que le tuning existe, combien de personnes en a vu passer ? Et qui ont pris refuge, qui sont engagées dans le Dharma, etc. Pourquoi ils ne sont pas là ce soir ? Il manque une, deux ou trois de ces conditions. Il leur manque ces conditions. Il y en a peut-être qui sont décédés, je suis d'accord. Mais il y en a peut-être qui sont malades, qui sont trop âgés. Il y en a dont le conjoint ne veut absolument pas qu'elle pratique le Dharma. C'est pas évident dans tous les couples. Hein? Nous ne sommes pas dans un pays où on nous interdit, par exemple, de changer de voie spirituelle. Il y a des pays, c'est impossible, ça. Tout ça, ça nous paraît aujourd'hui très banal, mais faites un listing de toutes les conditions que vous avez dû réunir pour venir ce soir à l'enseignement. Vous allez voir qu'il y en a une liste. Hein. Et retirez une, deux ou trois de ces conditions, eh bien, observez que ça sera beaucoup plus difficile, ça serait plus difficile, voire peut-être impossible d'être présent ce soir. Eh bien, ce genre d'exercice nous permet de comprendre que ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas banal, et que ces conditions sont extrêmement nombreuses, que ce n'est pas si évident de toutes les réunir, et que si je les ai réunies, bah, ma foi, je dois en faire quelque chose. D'autant qu'elles sont totalement fragiles, instables. Il n'y a rien de stable dans la réunion de ces conditions. Si on est sûr que le mois prochain, on se retrouve tous ici, on n'a rien compris à l'impermanence. Comme disait Ajahn Chah, pas sûr. Et il faut vraiment voir les choses comme ça. Et on le sait dans notre tête, mais on est persuadé ici qu'on se retrouve tous le mois prochain. et que nous aurons encore toutes les conditions, eh bien, pour pratiquer le mois prochain. Eh bien, ce n'est pas sûr, c'est vrai. Et sans réfléchir forcément et uniquement sur notre mort et sur ce qui se passe à notre mort, comme en général on réfléchit sur l'impermanence, mais réfléchir sur la fragilité, l'instabilité de ces conditions qui de toute façon changent et se modifient d'instant en instant. On ne peut pas dire que le mois prochain, elles seront toutes présentes. On n'en sait rien. On peut être malade, il y a des tas de conditions qui peuvent ne plus être présentes. La méditation, c'est quelque chose, comment dire, on doit utiliser notre intelligence, notre réflexion, notre discernement, notre faculté d'analyse, d'observation dans notre pratique du Dharma. On ne médite pas simplement en se disant, bon, ok, cuicui les petits oiseaux, quoi. Non, 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 on applique, mais pourquoi est-ce qu'on applique? Qu'est-ce que je fais là ce soir, quoi? Pourquoi est-ce que je me suis engagé un jour dans le Dharma si un jour j'ai décidé de suivre cette voie? Personne ne nous a obligés, personne ne nous a poussés. Il n'y en a pas un ici qui est de famille bouddhiste. Alors, qu'est-ce qui nous a motivés? Est-ce que nous savons maintenir cette motivation? Et ça, on revient à la première... question. On médite, on suit le Dharma, mais parce qu'on renonce au samsara. Mais aussi pour les autres, quoi. Il faut faire l'expérience que notre transformation de l'esprit, ça permet, eh bien, de moins être cause de souffrance pour autrui. Et là, la notion de compassion, elle devient puissante. Elle devient profonde. C'est pas juste un sentimentalisme. Oui, il faut que tous les êtres puissent être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Ça, c'est bien de le dire, mais comment est-ce que je le vis, ça? Qu'est-ce que je fais pour le vivre? Un bodhisattva, celui qui consacre sa vie à cet esprit d'éveil, eh bien, c'est quelqu'un, mais qui se repose régulièrement ces questions-là, et qui remet en question, eh bien, sa façon de vivre le Dharma et sa façon de méditer, surtout lorsqu'il sent que l'énergie, que la motivation, son envie de méditer, ça flanche. Et c'est normal que ça flanche, c'est normal, il n'y a pas de problème quand ça flanche. Ça demande un effort, ça demande un effort. Mais cet effort-là, c'est soit il se transforme en corvée, et alors vous vous installez sur le coussin, bon, il faut que j'y aille, de toute façon j'ai ma demi-heure à faire, alors vivement que ce soit fait, comme ça je passe à autre chose. Et alors là, à mon avis, ça ne donne pas beaucoup de fruits. Soit vous allez sur votre coussin, mais vous retrouvez le pourquoi de retrouver votre coussin. Et ça, c'est fondamental, quoi. Et ce n'est jamais une ligne droite légèrement ascendante, comme ça. C'est comme ça, notre pratique, quoi. Et c'est normal, c'est comme ça. Quand tout va mal, j'ai envie de méditer, alors je suis là. Oh, aujourd'hui, tout va bien, je méditerai demain, quoi. Bon, ben on est là, quoi. Et puis, on est comme ça. Et tout individu qui suit la voie fonctionne de cette façon. Ne croyez pas qu'un Rinpoche est devenu Rinpoche parce qu'un jour il a décidé de suivre la voie et que ça a toujours été comme ça, quoi. Jamais. Seulement, il y a quelque chose de très fort chez les grands pratiquants et c'est pourquoi ils deviennent Rinpoche. Il y a la détermination. Ils savent pourquoi ils méditent. Et c'est ce que veut dire Rinpoche quand il dit « Don't try to do it, do it ». Il y a un moment donné, il faut prendre des engagements, quoi. Il faut se couer, quoi. Se dire « Ok, j'en ai marre de ce fonctionnement-là. Il faut que je trouve des moyens pour le transformer. » Parce que ça, c'est cause de souffrance pour moi et c'est cause de souffrance aussi pour les autres. Quand Ringo Rinpoche explique, vous savez, quand il était gosse, qu'il aimait beaucoup se bagarrer avec ses petits copains, et un jour, il a compris que ce n'était pas conforme, cette attitude n'était pas conforme à la bodhicitta, à l'esprit d'éveil. Bon, ce jour-là, il explique qu'il a décidé de ne jamais plus se battre avec ses copains. Et il ne s'est jamais plus battu. C'est-à-dire que, voilà, il y a une détermination, il y a un engagement. Vous Vous croyez qu'un pianiste de haut niveau, il a fait ses gammes quand il en avait envie? J'ai connu un pianiste, François-René Duchâble, il m'a dit que c'était la corvée, quoi. Et sa mère était derrière, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bon, mais il avait l'aspiration aussi à devenir pianiste. Vous savez, on n'a pas envie d'aller à l'école tous les jours non plus, hein. Etc., etc. Dans la vie mondaine, pour un but mondain, on est capable de cette détermination. Voilà, mais il y a une motivation au départ qui nous entraîne, qui nous pousse. Cette motivation-là, il faut la trouver dans notre pratique du dharma. Elle ne viendra pas toute seule. On a l'impression que tout va bien quand il y a un Rinpoche qui passe, et alors, ah oui, oh, c'est génial, il n'y a plus que la pratique du dharma qui compte. 3 jours après, pom, c'est tout retombé, comme un vieux soufflé. Et pourquoi? Mais parce que cette énergie, on ne l'a pas trouvée en soi. On la trouve parce qu'il y a la présence de tel Rinpoche, on voit que, ah tiens, il ne réagit pas de la même façon, on sent un rayonnement équanime, d'amour, de compassion, ça nous touche, etc. Alors oui, ça, d'accord, on a envie de faire ce travail-là. Mais si cette motivation ne vient pas vraiment de nous-mêmes, ça ne tiendra pas longtemps. Et encore une chose, il y a des personnes, quand elles viennent dans un centre comme Alus, elles nous disent, ah, c'est beaucoup plus facile de méditer ici que chez moi. Mais c'est normal. À la maison, tout a été structuré, organisé en fonction de nos tendances. Donc c'est normal. Dans un centre, la structure d'un centre est faite pour que on casse un peu ces tendances. On n'écoute pas France Info toutes les 7 minutes, par exemple. Donc il y a un peu moins de pollution par rapport à tout ce qui se passe. Et puis on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'a pas... Voilà. On est obligé de fonctionner d'une autre façon dans un centre du dharma. Alors, c'est pour ça qu'on se sent bien quand on y vient de temps en temps, c'est pour ça que ça crise quand on y vit depuis un certain temps. Parce que c'est confrontation, après, avec notre mode de fonctionnement ordinaire. Donc on envoie tout péter, et puis voilà. Ça, voilà, il y a le risque. Parce que ce mode de vie, cette structure, eh bien, à un moment donné, effectivement, ça entre en conflit avec nos tendances et notre mode de vie ordinaire. Mais la structure est faite pour favoriser ce travail intérieur. Si vous méditez chez vous, organisez un espace-temps dans votre journée qui va être favorable pour votre pratique. Même si ce n'est qu'une demi-heure, faites en sorte que cette demi-heure, eh bien, soit favorable pour votre pratique. Choisissez un lieu où vous allez être tranquille, où vous allez être au calme, quoi. Et qui soit inspirant aussi pour votre pratique. Et si vous avez des enfants, faites en sorte que pendant cette demi-heure, vous leur expliquez, vous demandez à votre conjoint de vous occuper de vos enfants, mais que pendant cette demi-heure, vous n'êtes pas dérangé. C'est une façon aussi de prendre soin de votre pratique et de condenser un nombre de conditions favorables pour votre pratique. Évidemment que cette pratique, plus elle va être ancrée dans notre esprit, plus elle va être vécue aussi dans notre activité quotidienne. Et c'est ça l'intégration du calme mental. C'est comment est-ce que je réagis sur mon lieu de travail, comment est-ce que je réagis quand je suis en contact avec autrui. Est-ce que malgré les situations que je rencontre, mon esprit a tendance à être un petit peu plus calme, un peu moins réactif. Ça montre que la pratique, elle s'intègre aussi dans notre activité de tous les jours. Et c'est ça, intégrer Shiné. C'est lorsque notre esprit est plus stable, quelles que soient les situations que l'on rencontre. On ne demande pas à ce que l'esprit soit stable à 100% tout le temps, mais est-ce qu'il est un peu plus stable qu'à l'ordinaire? Voilà. Alors avec tout ça, je vous ai concocté un petit programme méditation quotidienne. Donc vous pouvez noter si ça vous inspire. C'est simplement un cadre pour votre pratique quotidienne. Si vous en avez déjà un et que vous n'avez pas besoin d'en avoir un autre, c'est très bien. Mais si vous sentez que votre pratique a un petit peu tendance à flotter, vous pouvez vous appuyer sur ce cadre-là. Et je n'ai rien inventé, hein, j'ai repris un peu le programme de Bokhara Rinpoche lors des séminaires. Alors je vous donne le minimum syndical, hein. Après vous pouvez faire plus si vous souhaitez, mais en tout cas essayez de ne pas faire moins. Alors ce minimum c'est 10 minutes de réflexion et 20 minutes de méditation. Alors la méditation tous les jours, ce mois-ci, vous faites la chiné en prenant pour support la respiration. Donc les 20 minutes de méditation tous les jours pendant un mois, eh bien, vous prenez ça. Et vous faites précéder votre pratique. Alors, soit vous faites précéder votre pratique des 10 minutes de réflexion, soit vous scindez les deux parce que votre emploi du temps ne vous permet pas de vraiment avoir une demi-heure. Mais le lundi, vous méditez sur la nature du samsara. En comprenant, en réfléchissant que le samsara, ce n'est pas le monde dans lequel on vit, mais c'est la confusion de notre esprit. C'est le fonctionnement confus de notre esprit. Rappelez-vous, samsara, ça veut dire cycle de souffrance. Est-ce que ce fonctionnement de l'esprit est souffrance pour moi et pour autrui? Ensuite, le mardi, comme réflexion, bodhicitta. Bodhicitta, ça veut dire ce que je comprends dans ce type de fonctionnement de l'esprit, je peux l'étendre à tous les êtres. Parce que tous les êtres fonctionnent de cette façon-là et tous souffrent. Et plus je comprendrai ce mode de fonctionnement, plus j'aurai de la bodhicitta, c'est-à-dire plus j'aurai de la compassion et le désir eh bien, de faire quelque chose pour les êtres, qu'ils souffrent moins, pour qu'ils souffrent moins. Et si ce n'est pas clair pour vous, prenez des exemples concrets, vos proches par exemple, et voyez comment ils souffrent aujourd'hui, et à partir de quoi ils souffrent. Analysez les causes de leur souffrance. Voyez que c'est le fonctionnement de leur esprit face à telle ou telle situation eh bien, qui engendre cette souffrance pour eux. Le mercredi, vous réfléchissez sur la loi de causalité, la loi du karma. Donc toujours hein, 10 minutes plus 20 minutes de méditation. Le jeudi, à nouveau la bodhicitta. Donc comme le mardi. Le vendredi, vous réfléchissez sur ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Toutes les conditions que vous réunissez, que vous devez réunir pour pratiquer le dharma. Le samedi, bodhicitta. Et le dimanche, l'impermanence, l'instabilité de chaque instant, la fragilité de ces conditions. Alors je sais bien que pour les anciens, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On a déjà rabâché, et peut-être certains d'entre vous disent « Oh, ça y est, ils rabâchent à nouveau le même sujet ». D'accord, moi aussi je l'ai dit quand j'ai entendu des dizaines de fois ce genre d'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on rabâche et qu'on nous le rabâche? Parce qu'on a absolument besoin d'intégrer ces quatre réflexions qu'on appelle fondamentales. Elles sont les fondements de notre esprit. Les Tibétains appellent ça l'odonamsi, littéralement les quatre pensées qui détournent l'esprit. C'est clair. Qui détourne l'esprit de quoi? Du samsara. Et pour que ça détourne vraiment notre esprit, pour que ces quatre réflexions fassent être une expérience en termes de compréhension dans notre esprit, faites en sorte de les intégrer de façon personnelle. Trouvez des exemples dans votre réflexion qui vous touchent personnellement, qui vous convainquent, vous permettent de comprendre, mais avec vos tripes, pas seulement avec votre tête. Bien sûr qu'il y a des traités qui parlent de ça. Monsieur des existences humaines, 8 libertés, 10 acquisitions, etc. Pourquoi savoir ça par cœur? En quoi ça nous touche? Par contre, si vous vous appuyez sur des expériences de votre vie quotidienne pour réfléchir là-dessus, mais ça va vous toucher. Et ça, c'est ça la transformation de l'esprit. Il faut qu'il y ait un jour un déclic qui se passe, quoi. Quelque chose qui se dise, mais c'est clair, quoi. Je vois ça maintenant clairement. Ok, je l'ai compris. Et je veux travailler sur mon esprit. Donc voilà. Le mois prochain, on changera les supports de méditation. Et puis en cours d'année, 4 mois après, on changera encore les supports de façon à arriver à méditer sans support au mois de juin. Et quand vraiment vous méditerez sans support, c'est le type de méditation qui vous permettra de passer dans la vision supérieure. Donc il faut qu'il y ait une progression, mais une chose ne changera pas au cours de cette année, c'est ces 4 réflexions fondamentales. Et l'année prochaine, Rinpoche Rinpoche viendra sans doute en juin. Parce qu'à Strasbourg, vous savez qu'il y a la fête du Bouddha début juin, en général, fin mai ou début juin. Et on a décidé que chaque année, on ferait venir un maître pour faire une conférence lors de cette fête du Bouddha qui dure un week-end. Et donc, on a décidé que qu'en 2014, ce sera Rinpoche Rinpoche. Donc, il viendra pour la fête du Bouddha, il a accepté. Et le week-end d'avant ou le week-end d'après, il fera le week-end habituel à Luce. Mais quand il vient dans un centre, mais posez-lui des questions, allez le voir, osez lui parler de votre pratique, de ce qui se passe dans votre esprit. Il y a 10 jours de ça, j'étais à Berlin. Les gens étaient ahuris qu'on pouvait poser des questions à Rinpoche. J'ai dit, mais pourquoi Rinpoche vient vous voir à Berlin? Pas simplement pour savoir si les murs ont avancé, si le bâtiment a avancé, ou parce qu'il a envie d'aller se balader, j'en sais rien, dans les rues de Berlin. Il n'en a rien à faire de ça. Il est là pour qu'on lui parle, mais de notre pratique. Si vous méditez régulièrement de cette façon-là, je pense que vous aurez quelque chose à lui dire au mois de juin. Ça ne peut que le rendre heureux et joyeux. Sa fonction en tant que Rinpoche, c'est de faire en sorte que les gens avancent sur le chemin du Dharma. C'est pas autre chose. C'est la plus belle offrande que vous pouvez faire à votre maître. C'est la plus belle offrande. Il n'attend que ça de nous. Et même si vous avez rencontré beaucoup d'obstacles dans votre pratique en cours de cette année, il faut aller le voir et lui dire, voilà, moi j'essaie de méditer avec motivation, avec énergie, etc. Je n'y arrive pas, je suis paresseux, je n'ai pas goût à ça, etc. Eh bien, allez le voir, parce que là, il va vous donner des antidotes à ça. Mais il a besoin de connaître notre pratique pour donner des antidotes, mais qui vont être justes, qui vont être ajustés à notre façon de pratiquer. Et si par contre, ça s'est bien passé, que vous avez des expériences, ben, allez le voir. Et dites-lui, oui, j'ai plus confiance, j'ai plus de renoncement dans le samsara, etc. Et bien là, il va vous dire, c'est très bien, continuez comme ça. Ou alors, essayez de mettre l'accent sur tel aspect du dharma pour avancer. Et donc là, il va donner une guidance et étape par étape, comment est-ce qu'on avance. Mais c'est très important d'avoir ce genre de relation. Avec un maître, en tout cas, en qui vous avez confiance. Mais si on ne pratique que épisodiquement, que lorsque ça ne va pas, etc., qu'est-ce que vous voulez aller lui raconter? Ma colère? Oh non, ça n'a pas de changement. Toujours me mettre en colère dès que l'autre me regarde de travers, ça fuse, quoi. Etc., etc. Personne ne peut faire le travail à notre place. Mais il ne faut pas le voir comme, je répète, comme une corvée. Il faut le voir quelque chose qui va apporter un bienfait mais pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et quand on commence à voir ça, on se dit, oui, tiens, c'est vrai. Ça, je peux commencer à accorder ma confiance à la voix, quoi. Voilà pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, après, il faut que je vous parle d'autre chose. Faites-moi penser.
La première fois que je viens, mais le mercredi, donc la loi de causalité, loi du karma, parce que là j'ai pas assez mon travail.
C'est de voir que sous l'emprise des facteurs perturbateurs, eh bien, non seulement vous allez produire des actes qui vont être à cause de souffrance pour autrui, mais tout acte entraîne une conséquence pour l'auteur de l'acte. Donc, dans cette recherche de la libération de la souffrance pour soi-même, il faut se libérer aussi de ce qui produit cette souffrance. Alors, il y a notre fonctionnement de l'esprit en termes de facteurs perturbateurs, etc. Mais il y a aussi la production d'actes négatifs. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que le karma, c'est un des quatre voiles quoi, qui empêche la réalisation de l'éveil. Donc, quand on renonce au mode de fonctionnement de notre esprit, en fait, il faut renoncer sur toute la chaîne de ce mode de fonctionnement. La cause, la volition, les facteurs perturbateurs, mais les actes aussi que nous accomplissons, par renoncement aussi à la souffrance que ça entraîne pour autrui, mais à la souffrance que ça entraîne aussi pour nous-mêmes, dans l'immédiat, parce que quand on agit en termes d'actes négatifs, franchement, notre esprit, on ne peut pas dire qu'il est totalement détendu et heureux, mais en réfléchissant aussi que l'effet de cet acte, eh bien, va être de rencontrer une circonstance pénible pour soi-même, quoi. Donc, il faut en fait voir tout l'enchaînement de ce fonctionnement d'esprit, tout ce que ça peut produire.
Créer la frontière entre réflexion et méditation sur chacun de ces actes.
Non, là, c'est vraiment une réflexion. C'est vraiment une réflexion. Ouais. Ouais, ouais. Et j'insiste que cette réflexion, elle soit personnelle, elle vous touche personnellement.
Mais si on veut par exemple méditer sur chacun de ces points.
Et comment vous méditez?
Moi, c'est ce qui me parle un peu, la différence entre la réflexion, ok, on réfléchit à chacun de ces points, on trouve que ça nous concerne, on essaie d'en tirer quelque chose.
Oui, c'est ça.
Mais après, je veux dire.
Mais après, plus vous aurez une réflexion.
C'est juste avoir les 10 minutes, là. 10 minutes et 20 minutes.
Ah ben non.
C'est toute la vie qu'on peut réfléchir à ça.
Mais oui. Oui.
C'est la vigilance de tous les instants.
Oui. Après, vous pouvez aussi utiliser les situations que vous rencontrez. Vous apprenez la mort de quelqu'un, bon, que cela évoque l'impermanence, la réflexion sur l'impermanence.
Je dis, on peut méditer là-dessus, par exemple. On a réfléchi.
Méditer veut dire à ce moment-là intégrer ça dans votre courant de conscience. Ouais.
Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ou c'est quelque chose qui.
C'est plutôt une réflexion qu'il faut avoir. C'est plutôt une réflexion et pendant la méditation, vous méditez comme on a fait tout à l'heure. Ouais, plutôt. C'est bon. J'ai apporté des kits de fin de vie. Vous savez, on en avait parlé, je crois. Donc ça y est, c'est fait. Alors, ils sont en vente au prix de 15 euros. Alors, je les ai laissés là-bas. Je ne peux pas vous montrer là. Mais vous pourrez en ouvrir un et regarder. Il y a des fiches qui ont été faites. C'est Orgien qui a tout... structurer ça à partir d'un enseignement que j'ai traduit de Hakon Rinpoche, qui est un Rinpoche qui vit en Écosse. Il a fait, lui, quelque chose de similaire, mais simplement on l'a structuré d'une autre façon, sous forme de fiches, Et Rinpoche Rinpoche a vu tout ça, donc il a validé tout ça. Donc il y a des fiches d'instruction générale, des fiches avec des instructions que l'on peut donner au personnel médical. Tout ça, c'est quand chacun va mourir. Des instructions que l'on donne aux pompes funèbres, mais aussi à sa famille. Quel est le centre que l'on veut contacter? Qu'est-ce que l'on veut comme pratique au moment de mourir? Qu'est-ce que l'on veut lors de nos funérailles? Il y a des tas d'instructions que vous pourrez voir qui consistent à ne pas trop toucher le corps, à ne pas embaumer, par exemple. Voilà. Il y a la photo, il y a une espèce de carte d'identité aussi. Et puis, il y a un médaillon qui est joint à cela, qu'on appelle un tagdreul. Ce sont des mantras qui sont recouverts de fils de différentes couleurs. Ces mantras, ce sont les mantras des divinités du bardo, de ce qui se passe dans l'état post-mortem. Et ce médaillon, eh bien, il faut le poser sur notre chakra du cœur au moment de la mort, et en tout cas le garder sur le chakra du cœur au moment de l'incinération ou de l'enterrement. Voilà, donc vous avez tout ça. Et après, vous aurez, quand Rinpoche l'aura fait, un CD qui ira avec de prières que l'on peut réciter à notre oreille ou pendant le rituel qui suit notre mort. Avec tout ça, on devrait pouvoir partir tranquille. Voilà. Voilà. C'est peut-être pas très réjouissant, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire dans le bouddhisme, c'est que la mort, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Oui.
Et pour les dons d'organes.
Alors, pour les dons d'organes, c'est toujours une question. Il y a deux aspects là-dedans. Les dons d'organes, ça perturbe le déroulement de la mort. Puisque pour nous, la mort, c'est pas seulement l'arrêt respiratoire ou l'arrêt cardiaque, il y a un autre processus qu'on appelle le processus des trois chemins qui se met en place tout de suite après. Et ça peut perturber ce chemin-là, ce processus-là. En même temps, tous les maîtres vous diront que le don d'organes, il est fait avec une telle motivation pour sauver des êtres, que ça surpasse absolument la perturbation du moment de la mort. Ce qui montre bien là encore que c'est l'esprit qui domine. Voilà. Donc, pas de contre-indication en fait. Voilà, c'est ça. C'est à nouveau la bodhicitta, la motivation altruiste, etc. Et ça, c'est vraiment l'attitude du bodhisattva, quoi. Le bodhisattva, en fait, peu importe ce qui lui arrive au moment de la mort, à partir du moment où ce moment-là peut encore être utile à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est supérieur comme motivation. Voilà. Alors, je ne pars pas de moi. Je ne pars qu'à moi, parce que j'ai appris cet été que c'est 9 heures par jour de rituel en tibétain, qu'en tibétain, que je crois être le seul lama occidental qui était partant pour cette retraite, et que Ringo Rinpoche n'a pas pu m'assurer que les enseignements en tibétain seraient traduits. Alors, c'est gentil, mais bon. Donc je ne pars qu'un mois. Alors je pars le 14 novembre et je rentre le 15 décembre, je crois. Et donc, j'irai à l'école tous les matins, puis l'après-midi et le soir, eh bien, je serai au stupa pour pratiquer. Donc on se revoit en octobre. Je ne sais pas si on se revoit en novembre, mais si vous avez du courrier pour l'enfant que vous parrainez à l'école, vous me le donnez et je ferai le facteur. Vous avez été au courant que la petite Pooja n'a pas été opérée. Ça nous a mis dans une situation un petit peu délicate, on va dire, parce qu'après avoir demandé une souscription pour l'opération, on dit « Ah ben non, elle n'est pas opérée, voilà, ça fait un peu léger, quoi. » Alors c'est pour ça que dans la lettre qu'on a envoyée à tous ceux qui ont fait un don, on a bien expliqué quel est le comment est le système médical en Inde, quoi. Et franchement, pour hospitaliser quelqu'un en Inde, vous devez déjà payer, vous devez verser à l'hôpital 75% du coût de l'opération et de l'hospitalisation. Voilà, ça c'est pour toute personne hospitalisée. Donc, ça coûtait 6000 euros, l'opération. Le père de la gamine gagne 30 euros par mois. Donc, c'est clair que sa gamine allait mourir. Bon. Et l'hospitalisation, avant, il faut qu'elle soit hospitalisée pour des examens. Donc, on était obligé de déposer cette somme pour qu'elle subisse les examens. Elle devait être opérée, par exemple, demain à 8 heures. Le soir à 17 heures, dernier rapport d'examen est arrivé en lui disant « Ah, mais non, le trou dans le cœur, c'était une malformation cardiaque, a tendance à se reboucher. » Bon, tant mieux pour la gamine. Donc, elle a un traitement sur plusieurs mois, mais opération annulée. Alors, on a payé quand même la semaine d'hospitalisation. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand votre patient et votre enfant est hospitalisé, l'hôpital ne fournit pas la nourriture. Donc, il faut que les parents prennent une chambre d'hôtel pour venir nourrir votre enfant à l'hôpital. Ensuite, Rajesh a reçu une liste de tout ce qu'il faut pour l'hospitalisation. Tant de litres de sang, les perfusions, et tous les médicaments post-opératoires et tout ça. Le sang, il ne trouvait pas son rhésus. Alors, les banques de sang n'en avaient pas assez, donc il fallait qu'il demande aux gens dans la rue « Vous ne voulez pas donner votre sang ? Et vous êtes de quel groupe ?» etc. Donc, tout ça, ça avait un coût. Et tout ça, ça a été déposé à l'hôpital. C'est tout juste si on ne doit pas arriver avec le bistouri et un chirurgien, quoi. Ça, c'est le système indien, quoi. Voilà.
Donc pourquoi est-ce qu'ils proposent de nous rembourser ou alors
qu'ils
aillent sur d'autres choses?
Non, on a pu rembourser. Il y a des personnes qui ont demandé à être remboursées, d'autres qui ont dit mais non, mais gardez ça et puis mettez-le
dans la caisse. Il n'y a pas la proposition justement de passer dans les frais justement qui avaient
lieu. Parce que ça, on a des réserves si vous voulez et puis on a payé avec ces réserves-là. Voilà. Oui, en tout cas, elle est essoufflée toujours, mais son cas ne nécessite plus une opération. Bon, alors elle était toute contente, c'est sûr. Hein. Et les parents aussi, voilà.
Mais c'est aujourd'hui, on peut penser que dans un an, où ça peut cette opération peut se déclencher.
Non. Normalement, non. Non, mais c'est cette cette maladie, vous savez, c'est la différence entre maladie bleue et maladie carrée, et qui fait que lorsque le cœur grossit, c'est un muscle, lorsque le cœur grossit, proportionnellement, le trou ne grossit pas, donc il réduit, voire il peut se boucher. J'ai un frère qui a eu ça, et en fait, le trou s'est bouché avec l'âge, si vous voulez. Donc il a retrouvé un cœur normal. Et l'autre type de maladie, c'est que l'orifice grossit au fur et à mesure que le cœur grossit. Donc là, il faut absolument opérer, quoi. Voilà, et apparemment, elle, ce n'est pas ce cas-là. Voilà. Mais voilà, je peux vous dire que les parents, en tout cas, de Pooja... Alors non, il y a une chose très, très positive là-dedans. Et ça, vraiment, ça... Rajesh a eu une discussion avec le chirurgien. Et le chirurgien lui a dit, mais... Parce qu'il lui a demandé d'où venaient les fonds, etc. Donc le chirurgien a dit, mais comment se fait-il que plein d'Européens se sont mobilisés pour une intouchable? Et Rajesh lui a dit, mais attendez, pour les Européens, c'est pas une intouchable. C'est une petite fille de 13 ans qui a besoin de 15 ans qui a besoin d'être opéré, point, c'est un être humain, quoi, point. Et ça l'a tellement secoué, le chirurgien, qu'il a donné un dossier à Rajesh en disant remplissez ce dossier, on fait une demande auprès de l'État du Bihar que les coûts de l'opération soient remboursés à 50% par l'État. Ouais. Donc ça ne se fera pas puisque l'opération n'a pas eu lieu. Mais je veux dire, dans l'esprit de ce chirurgien, il y a peut-être quelque chose qui s'est mis en place. Et je crois beaucoup à ce genre de petites choses pour que les choses bougent. En tout cas, les parents, bon, ils ne savent ni lire ni écrire, ils ne peuvent pas répondre aux parrains, etc. Mais je peux vous dire que le père en pleurait, quoi, de voir que la somme était réunie pour l'hospitalisation de sa fille. Sinon, elle mourrait, quoi. Bon, elle ne mourrait pas parce qu'il y avait